כבוד הרבנים, מוריי ורבותיי, tous nos amis qui sont venus ce soir pour soutenir nos institutions, les amis de longue date, de moins longue date, à tous, Yashir Kochachem, Kakadosh Baruch Hu vous bénisse et vous donne ce que vous pouvez souhaiter, Bisrar, par le mérite de cette mitzvah. J'ai l'habitude, à chaque soirée, de remercier non seulement tout le Kahal, mais individuellement tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui nous aident. Seulement, plusieurs m'ont demandé de ne pas le faire, et je respecterai leur modestie. Mais il y a une chose que je voudrais faire ce soir, c'est remercier tous les rabbanim, tous ceux qui enseignent à la yeshiva, tous ceux qui s'occupent de l'école, qui sont eux les vrais artisans des institutions et de l'enseignement. Et je voudrais leur dire que, à cette occasion, parce que ce sont des choses que l'on n'écoute pas lorsque on les exprime tête à tête, que l'œuvre, l'enseignement, l'exemple, tout ce qu'ils apportent aux élèves, c'est quelque chose d'extraordinaire et que je n'ai pas à les remercier pour ce qu'ils sont, mais je peux les remercier du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. Vous savez que on avance dans le temps et notre ami Serge Cachan a parlé à propos de ce verset, Chodesh Hazeh Lachem, il a parlé du temps. Alors moi aussi, je commencerai à parler qu'on essaie de comprendre ce que veut dire en hébreu le mot temps, zman. Vous savez qu'à chaque fête, on parle de zman chéroutenu, le temps de la délivrance. Zman matan torotenu, le temps du don de la Torah. Zman simchatenu, le temps de notre simcha. Et les commentateurs expliquent que le mot zman est composé de trois lettres, zayin, mem et nun. Zman, c'est le temps. Mais le temps ne peut s'écouler. Le temps, on ne peut pas parler de dans le temps, où il y a du temps, où il y avait un temps. S'il n'existe pas un makom, s'il n'existe pas un endroit, on pourrait même dire plus généralement s'il n'existait pas de la matière. C'est pour ça que le Zayin, Zman, est suivi du même, la lettre même, qui signifie makom. Et la dernière lettre, le Nun, c'est Neshama. C'est-à-dire que le temps, la matière, ne peuvent exister s'il n'y a pas derrière une volonté, on pourrait peut-être même dire une énergie, que nous appelons nous la neshama, la volonté divine. Vous savez que le Mirtam Eliyahu Rav Dessler, en se basant sur une explication célèbre du Sforno au commencement de la paracha de Réchit, dit que ce que nous disons tous les matins, Baruch She'amar Ve'aya Olam, celui qui a parlé, qui a dit, et le monde fut, Baruch Oseh Bereshit, celui qui a fait le début, il dit c'est la création du temps. Et pour nous, c'est très difficile de comprendre, même ceux qui savent beaucoup de choses, comme la théorie de la relativité, de comprendre que le temps, c'est une création. Parce que nous ne savons pas ce que c'est que le temps, nous ne savons seulement ce qu'est la mesure du temps. Le temps, on ne sait pas ce que c'est. On sait le mesurer. Il s'est écoulé une heure, une minute, une seconde, une journée, un mois, une année. Mais c'est quoi le temps? Et le Mirta Miliaou l'explique, le Sforno, en disant ceci. Les gens croient que le temps passe sur vous, qu'on reste statique, qu'on est né, on est celui qu'on est, on existe, on est indépendant, et le temps passe. Il dit, mais c'est faux. Ce que veut expliquer le Sforno, c'est que ce n'est pas le temps qui passe, c'est l'homme qui va dans le temps. Ça veut dire que Oseh Bereshit, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme, il lui a donné un départ. Et l'homme marche, sa marche va vers une fin. Ce qui existe entre son départ et sa marche, ça s'appelle le Zman que l'on mesure en seconde, en heure, en journée, en mois, en année. On va voir tout à l'heure que ça n'est pas compris par tous. Dit l'homme se déplace, il a un début et il a une fin. Tout le problème est de savoir de quoi aura-t-il l'air à la fin et de quoi a-t-il l'air à chaque station de ce temps qu'il peut mesurer. Baruch Oseh Bereshit, ça veut dire que le bon Dieu nous a lancé. Il ne nous a pas créé et on reste tel qu'on est. Il nous a lancé et vivre, avancer, c'est le Zman. Ça veut dire que l'homme est un holer, c'est quelqu'un qui marche. Et il marche vers son accomplissement. Chaque station peut être mesurée. Et c'est à lui de savoir vers où il marche, comment il marche. S'il ressemble à lui-même, très souvent les gens me disent, je ne me rends pas compte du temps qui passe. Je suis jeune encore dans ma tête, je suis pareil à moi-même. Seulement ça voudrait dire que l'homme ne marche pas. L'homme doit être différent à chaque mesure du temps. Il doit évoluer, il doit changer. Akadosh Baruch Hu lui a donné un départ. Et on va essayer d'expliquer. Vous savez que le Rambam, le Mishneh Torah, commence le premier chapitre de Ilchot Yesodei Torah. Commence le Rambam, il dit une chose qui est très bizarre pour nous. Vehu she'anavi omer. Il dit voilà comment le prophète s'exprime. Vashem Elokim emet. Hashem, notre Dieu, emet. Il est vérité. Vehu she'atorah amra. Et tu vas retrouver ces mêmes paroles dans la Torah. Quelles sont-elles? Une chose bizarre. En od milvado, il n'existe rien à part lui. Déjà, qu'il n'existe rien à part le Ribbono Shel Olam, à part le Créateur du monde, c'est difficile parce que nous existons. Mais en plus, quel rapport avec le fait que Hachem est émet, qu'il est vérité. Et le Rambam dit, c'est exactement la même chose. Où chez un avis Omer? Ce que le Navi dit, ce que le prophète dit, Hachem Elokim Emet, tu le retrouves dans les paroles dans la Torah, le bon Dieu est seul. Il est le seul qui existe. Ça peut vouloir dire que nous ne nous existons pas de notre fait et en tant que nous-mêmes, et sur des bases qui sont les nôtres. Nous n'existons que par rapport à celui qui nous a lancés dans le temps et qui, lui, est le seul émettre. Et pourquoi est-il le seul émettre? Parce que émettre, ça veut dire ne dépendre de rien du tout, ne dépendre que de sa vérité. Lorsqu'un homme dépend d'autrui, lorsqu'un homme pense par rapport à autrui, lorsqu'un homme fait pour autrui, il n'est pas dans le émettre. Et d'être totalement indépendant, de n'avoir de référence que soi-même, c'est impossible. Il peut être émettre par rapport à quelque chose, il peut être semblable à quelque chose, mais il ne peut pas être émettre. Et Rashi, dans la Gemara, dans Shabbat, il nous explique que lorsque la Gemara dit que émettre, ça englobe tout, le début, le milieu et la fin, il dit parce que la première lettre, Aleph, Mem et Tav, c'est la première, la lettre du milieu et la dernière lettre. Ça veut dire que le Créateur est le seul qui ne se référencie que par lui-même. Mais l'homme n'a pas de référence par lui-même. L'homme a été lancé sur une piste, il a été lancé sur un chemin. Et ce chemin-là, que les uns appellent la vie, nous l'appelons le Zman. Ce temps qui a besoin d'une matière, parce que sans matière, nous ne serions pas indépendants d'Akadosh Baruch Hu, d'aucune façon. Et qui a besoin d'une neshama, il y a besoin d'un souffle, il y a besoin d'une volonté. C'est exactement ce que nous disons qu'Akadosh Baruch Hu est émet. Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a ni temps, ni matière ou endroit, ni volonté qui préside à son existence. C'est la définition du émet. Le émet, c'est celui qui ne dépend de rien, d'aucune chose et de personne. C'est ce que le Rambam dit. Tu veux comprendre lorsque l'on dit En od milvado, il n'existe rien à part Akadosh Baruch Hu. Mais pourtant j'existe. Mais non, tu n'existes pas en tant que tel. Tu dépends. Tu as été lancé. Tu marches parce qu'on t'a poussé. Mais de toi-même, tu ne peux rien faire. Donc tu n'es pas émet. Parce que tu n'es pas seul. Et lorsqu'un homme dans sa vie voudra faire des choses, penser à des choses qui sont émettes, à ce moment-là, il verra combien il est seul. À ce moment-là, comment il verra et il comprendra que lorsque on veut coller un tant soit peu au émet, à la vérité, alors il n'y a plus rien autour. Ça englobe tout. Et cette récurrence du émet d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre émet, c'est en quoi nous pouvons ressembler, en quoi nous pouvons vivre selon ce qu'il nous a demandé. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin parce qu'il est écrit dans le Midrash qu'au moment où Dieu a créé l'homme, Ishlir Emet Arza, il a jeté la vérité par terre. C'est un verset dans le prophète Daniel. Vatashler Emet Arza. Le Midrash dit qu'il s'applique au moment où Dieu a créé l'homme. Il a jeté la vérité par terre. Et le Midrash continue, il dit, et maintenant je vais t'amener un autre verset dans les Tehillim. David Amelach, il a dit, Emet me eretz titzmach. Le Emet, la vérité, me eretz, c'est de la terre, titzmach, qu'elle grandira, qu'elle fleurira. Si on veut essayer de comprendre ce que ça veut dire, ça peut vouloir dire une chose. Quoi qu'un homme fasse, quoi qu'il voit, quoi qu'il comprenne, il doit toujours avoir derrière la tête qu'il est soumis à la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Même celui qui s'oppose, même celui qui est incroyant, même celui qui blasphème, il doit savoir qu'il a été mis sur une piste qui ne lui appartient pas, et qu'il dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Donc même s'il va aller dans le contraire de ce qu'il pense être la vérité, il sera toujours dans le Emet, parce qu'on ne peut pas se cacher du bon Dieu. Emet, mais Eret, Tismach. La vérité, elle vient de la terre. Ça veut dire que la terre, elle reflète. À chaque instant, en od milvado, qu'Akadosh Baruch Hu est seul. Alors on va se demander, puisqu'il est seul, où est-ce qu'on est nous ? Nous, on est en marche. Nous, on n'englobe rien. Nous, on a une occasion. Et c'est pour ça que la façon de se conduire, d'après la Torah, s'appelle la halakha, la façon de marcher. Parce que la vie, c'est une marche. Le zman, c'est une marche. Pour avoir ce zman, pour avoir ce temps, on est obligé d'avoir un endroit. On est obligé d'avoir de la matière. Et on est aussi obligé d'avoir une neshama. On est obligé d'être propulsé, de faire et de convenir à une volonté qui est supérieure à la nôtre. Et quoi que l'homme fasse, de toute façon, ce émet, cette vérité et le fait que Dieu est seul, ça continuera et ça existera toujours. Je crois même que ça existe de plus en plus. Et on va donner un exemple. Le Gaon de Vilna, dans la paracha de Zot Abracha, il explique que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ont dit « Naaseh v'nishma ». On va traduire d'après la traduction de Rabbeinu Yonah dans le Shaar et Tshuva. « Naaseh », ça veut dire « nous accomplirons ». « Venishma » et « nous entendrons ».« Naaseh v'nishma » veut dire « nous acceptons de faire ce qu'on nous demande ». Et puisque nous acceptons, maintenant, essayons d'entendre ce qu'on nous demande. « Naaseh », c'est l'acceptation de faire, de marcher selon ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. « Nishma », c'est où il faut aller, comment il faut le faire. Le Gaon de Vilna a dit une chose extraordinaire. Il dit, tu veux savoir d'où les Bnei Israël, comment les Juifs, au moment du don de la Torah, ont eu cette idée de dire une chose pareille. Parce que normalement, c'est le contraire. Dis-moi ce que tu veux et après je déciderai. Parle, tu m'intéresses, et si tu m'intéresses vraiment, ben, je vais démarrer. Eux, ils ont dit le contraire. Ils ont dit, nous, on fera. Maintenant, dis-nous ce qu'il faut faire. Le Gaon de Vilna a dit une chose incroyable. Il dit, ça c'est une matana, c'est un cadeau qu'ils ont reçu de Esav et de Ishmaël. Et voilà ce qu'il dit le Gaon de Vilna et il se tait, pas un mot de plus. Naaseh v'nishma, c'est le cadeau de Esav et de Ishmaël. Regardez, c'est dans la Deret Eliyahu, dans la paracha Vezot Abracha, au Fir Meraparan. C'est très difficile à comprendre. Mais peut-être qu'on pourrait expliquer ceci de la façon suivante. Esav, paradoxalement, c'est le mot « la'asot », faire. Et Ishmaël, encore plus paradoxalement, c'est l'écoute. L'ishmoa, c'est écouter. Et ça veut Ishmaël, na'aseh v'nishma. C'est sûr que c'est ça l'idée du Gaon de Vilna. Mais il ne suffit pas de rapprocher les mots pour leur donner un sens. Il faut essayer de les comprendre. Alors on va essayer de comprendre ceci. On va commencer par Ishmaël, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus concerné par lui. On est plus concerné par lui, parce que nous assistons à ce qui est écrit dans le Zohar et dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, que la fin de la galoute, Ishmaël, c'est lui qui prendra le pouvoir sur le monde entier. Et on est en train d'assister à ce qui était incroyable, à ce que l'on ne pouvait pas imaginer, c'est que celui qui était méprisé, qui était dans les tentes que Oale Kedar, celui qui est statique, celui qui ne sait pas avancer, il n'a pas l'intelligence du progrès tout seul, Et lorsqu'il a cette intelligence, c'est par colonisation, ça ne lui appartient pas. Et tout d'un coup, celui-ci, il est en train de devenir le plus puissant. C'est comme ça que la galoute se terminera. Comme ça, c'est écrit dans les Pirkei de Rabbi Eliezer et dans le Zohar. Et on va essayer de comprendre. Ishmaël, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a un message. Il est spirituel. Il n'est pas matériel. Il a compris que la vie, c'est le rattachement à Kadosh Baruch Hu. Mais il ne sait pas écouter. Parce que il ne peut écouter que ce qu'il comprend ou ce qu'il veut écouter. Le Nishma, il existe. Lui aussi, il voulait dire Naaseh v'Nishma. Mais Nishma, ce n'était pas ce que le bon Dieu voulait. C'est ce que moi je comprends, ce que moi j'entends. Et vous apercevrez, dans l'expérience, que très souvent vous parlez aux gens, et ils entendent très bien ce que vous dites, mais de la façon dont eux, ils le pensent. Ça veut dire que c'est jamais faux. Tout ce qu'il va vous raconter, c'est vrai. Mais c'est jamais vrai non plus. Tout ce qu'il vous dira, ça n'est pas prouvé. Si tu veux imiter Moshe Rabbeinu, alors il va faire comme au Mont Sinaï. HaKadosh Baruch Hu s'est adressé PLP. Il a parlé à Moshe Rabbeinu devant tout le clan Israël, des millions d'hommes et femmes. Bavour, il a fait exprès. Yishma Aram, pour que l'homme sache qu'on s'est adressé à Moshe Rabbeinu. C'est facile de venir et de dire, on m'a parlé. Et le pire, c'est que même si on ne lui a pas parlé, mais il a entendu lui. Il a vraiment entendu. Parce que il n'a pas fait l'effort de dire Naaseh d'abord. Lui, il s'est dit, je suis prêt à tout. Mais selon ce que je comprends, il faut savoir qu'il n'y a rien qui sépare le divin de l'humain. Il n'y a rien qui sépare Dieu de l'homme. Rien ne les sépare sinon une seule chose. La seule chose qui peut séparer Dieu de l'homme, c'est l'homme. C'est lorsqu'il pense à lui. La seule chose qui peut le séparer d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'il s'adresse à lui-même, lorsqu'il a conscience de son existence. Alors que nous nous disons « En od milvado », toi tu n'existes pas par toi-même. Toi tu fais partie d'un monde. Alors ce que tu dois écouter, c'est pas ce que tu voudrais. C'est pas ce que tu penses. C'est pas ce qui te flatte. C'est pas ce qui te rend grand. C'est ce qu'on veut te dire. Ishmaël, il a écouté. Et le clan d'Israël, Yaakov Avinu, il a pris cette mida d'Ishmaël, il a dit, je vais écouter. Selon Yaakov Avinu, il ne s'est pas écouté, lui. Il a écouté Akadosh Baruch Hu. Esav, c'est le contraire. C'est celui qui n'écoute pas, mais il fait. Et il fait tellement bien qu'il se demande à chaque moment, comment utiliser ce monde? Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais lui aussi, il n'essaie pas de faire ce qu'on peut lui demander. Il n'essaie pas de se demander si je l'existe. Peut-être que Enon Milvado, peut-être que tu es un grain de poussière, peut-être que tu dépends d'autre chose. Non. Il fait ce que lui pense devoir faire. Et ça aussi, c'est Naaseh. Ça aussi, il faut prendre sur soi pour vouloir faire. Ça aussi, c'est une valeur. Seulement lorsque tu fais, la seule façon de faire, de façon que ça n'ait pas de rapport avec le divin, c'est de faire ce qui te fait plaisir à toi et ce que tu as envie toi. Parce que c'est la seule façon de séparer l'homme du divin. L'homme est à l'écoute. Il a la conscience du Ribbono Shel Olam à chaque instant de sa vie. Seulement, comme il est là aussi, alors il se voit lui, et c'est pour ça que il n'arrive pas à faire le Naaseh, il n'arrive pas à produire des actes qui sont en rapport avec la vérité. Et comme il écoute, mais il s'écoute lui-même, il s'écoute parler, il s'écoute être grand, alors tout ce qu'on lui dit, ça passe par ce prisme qui déforme tout, parce que c'est la seule façon de séparer l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tout doucement, on peut comprendre ce que veut dire le Rambam. En od milvado, la Torah dit, n'existe rien à part Akadosh Baruch Hu. Dans ta vie, sache que tu es en train de marcher dans un monde qui n'est pas à toi. Que tu es en train de produire des choses qu'on t'a suggéré de faire. Ça, c'est le naasé. Ça, c'est des choses qui ont une grande valeur. Ce n'est pas des petites choses. Ce sont des grandes choses. Seulement, ça n'a de valeur que si tu es engagé. Si tu crois que tu existes et que c'est le temps qui passe sur toi. Si tu crois que toi, tu existes, tu es statique, que tu es là une fois pour toutes, tu es posé, et c'est le temps qui passe, alors tu n'auras rien compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu marches. Et un homme qui sent qu'il marche, qu'il avance, il est obligé de se demander, mais qui le pousse, comment on le pousse, comment on marche, comment on avance. Il n'y a que celui qui se sent exister par lui-même, qu'il oublie d'où il est venu, qu'il oublie tout ce qui est divin dans la créature, dans la création. Il n'y a que cet homme-là qui peut oublier et qui peut être séparé du divin. Le Zman, le temps, c'est que nous évoluons. Et un homme doit se demander à chaque instant, comment je pense différemment qu'avant? Comment j'agis différemment? Parce que sinon, je n'avance pas. C'est seulement une mesure du temps qui passe sur moi, et ça veut dire qu'on est séparé totalement de la réalité. Et à ce moment-là, il n'existe plus de réalité à part Akadosh Baruch Hu. Notre seule façon d'exister, c'est de marcher sous cette voie. Celui qui a un réchit, celui qui a un début, il a un harit. Sache que si quelqu'un a vraiment conscience d'avoir eu un début qui ne dépend pas de lui, et qu'on exige quelque chose de lui, et que le temps qu'il lui a loué, qu'il appelle la vie, qu'il appelle son temps de vie, qu'il mesure par les mesures qui sont les années, lorsqu'il comprend ça, à ce moment-là, il a un avenir. Et il le voit, cet avenir, il peut le mesurer. Pas par seconde, parce que ça va trop vite. Peut-être pas par minute. Mais peut-être par heure. Peut-être par jour. Mais sûrement par mois et par année. Celui qui se ressemble, ça veut dire qu'il n'a pas compris qu'on l'a poussé et qu'il doit démarrer et qu'il doit avancer. Alors celui-ci, il n'a pas d'avenir non plus. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la Torah, à propos d'Amalek, celui qui veut renier, celui qui veut se croire seul, qui veut se croire indépendant de tout, il y a marqué « Réchit Goyim Amalek », lui aussi. Il a un beau réchit, lui aussi. Il a un départ formidable. « Ve'acharito ade oved » mais il n'a pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte de ce réchit. Il ne tient pas compte du moment où on l'a propulsé. Chaque homme bénéficie de ce Zman, bénéficie de ce Makom, il bénéficie de cette Neshama. Nous, notre Makom, notre endroit, ça n'est pas la matière brute. C'est vrai que, par généralité, c'est vrai que le Makom, c'est la matière. Mais nous, le peuple juif, a toujours été attaché à un endroit qui s'appelle Makom, et la Makom, ma chère Yifrar, l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, cet endroit-là, c'est Eretz Israël. Le juif, là où il se trouve, est dépendant de ce Makom. Il a une réalité en lui qui fait qu'il a une relation intime avec cet endroit. Et même s'il n'y a jamais mis les pieds, et même s'il pense que pour l'instant, ou pas pour l'instant, il ne peut pas y être, il existe une relation avec cet endroit. Cette relation avec cet endroit est la Makom Asherivra, l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour nous. C'est notre terre et ça restera toujours notre terre, même si nous avons des difficultés à l'occuper, à la retenir, à la réoccuper, même si dans l'avenir nous ne savons rien, même si aujourd'hui on se permet de dire que Chas v'Shalom va jeter le juif à la mer. C'est notre terre, ça restera toujours notre terre. C'est notre Makom. Ça, c'est notre endroit. C'est l'endroit vers lequel nous nous tournons. Parce que c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a mis en image l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire de la Torah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont les Avot, ce sont les débuts de l'humanité, et cela, Akadosh Baruch Hu les a mis en image, et a mis en image le peuple juif sur la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est une valeur, c'est quelque chose qui fait que le peuple juif n'a pas seulement une part parmi le peuple, il n'a pas seulement une part parmi les autres. Ça n'est pas seulement qui compte, qu'il soit Cohen, Lévi ou Israël, ou de cette tribu ou de cette tribu. C'est qu'il a une part dans la terre d'Eretz Israël. Il est rattaché à cette terre parce que c'est l'image qu'il a de l'histoire vraie qu'Akadosh Baruch Hu a voulu écrire et qui sera la nôtre un jour. Cette image qu'il a en tête, cette image d'Eretz Israël, il est écrit dans le Shulchan Aruch que l'on doit se tourner vers cette terre pour prier. Parce que ton rattachement, ta sensation de faire partie du monde du bon Dieu, ça passe par ton endroit, ça passe par Eretz Israël. Quoi qu'on fasse, et quoi qu'ait été longue la galoute, et quoi qu'ait été difficile les accès à Eretz Israël, le juif s'est toujours tourné vers là-bas. Et c'est la seule image vraie du Makom, de l'endroit. Parce que son histoire a débuté là-bas, son histoire a continué là-bas. Et celui qui renie cette identité, il renie une part de lui-même. C'est pour ça que Yosef, lorsqu'on a demandé « Mais qui tu es, d'où tu es ?» il a dit « Kigunafti me'eretz ha'ivrim » On m'a volé de la terre des Ivrim, moi je suis un Ivri. Là où il se trouve, le juif a une part en Eretz Israël. Et de même qu'il se réunit à l'ensemble du peuple juif, à l'ensemble de la création, à ce Enod Milvado, au fait qu'il n'existe rien à part Akadosh Baruch Hu, d'existentiel et d'indépendant vraiment, par ce fait-là, toute sa vie, son zman, le temps qui est le sien, ça ne sont pas des épreuves qui sont petites. Ce n'est pas des problèmes qui sont circonstanciés à lui. Ça fait partie de l'histoire du peuple juif. Et lorsque un homme, le jour où ça ne va pas si bien, le jour où il veut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il prend un livre qui s'appelle le Tehilim. Et à ce moment-là, il se rattache par son histoire, par son temps, par ses épreuves, par ses difficultés, à une autre dimension. Ce n'est pas simplement que la difficulté, elle est matérielle. Ce n'est pas simplement que la difficulté est individuelle. C'est que cette difficulté, elle fait partie de l'histoire du peuple juif. Parce que si tu as un zman, si tu as une vie, c'est que tu as un makom aussi. C'est pour ça, vous savez que nous avons longuement réfléchi. Est-ce que c'était bien de mettre des images dans le livre de Tehillim? Et on avait déjà fait un essai avec un artiste célèbre, très connu, très doué. Et à ce moment-là, je me suis dit non. Lorsqu'un juif prie, il doit voir, la seule chose qu'il peut voir devant lui, c'est son makom. Lorsque le juif, il se rend compte de sa neshama, il se rend compte de ce qu'Akadosh Baruch Hu de lui, il s'adresse à lui, alors il est obligé d'avoir son makom, son endroit. Et la seule chose qui pourrait que l'homme réfléchisse, c'est de lui montrer des images d'Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à un artiste de dessiner, de peindre, de refléter les images d'Eretz Israël telles qu'elles étaient il y a centaines d'années. Et elles étaient il y a une centaine d'années, de la même façon qu'elles existaient pendant 2 millénaires. Rien n'avait changé. Et lorsque l'homme pense à son Macom, il ne pense pas à ce qui est moderne. Il ne pense pas à quel quartier. Il ne pense pas à la spéculation immobilière. Il pense à l'endroit. L'endroit qui lui appartient. Et il ne peut le voir que dans le Zman. Il ne peut le voir que dans le passé. Parce que c'est sur cette terre-là qu'Akadosh Baruch Hu a écrit et a mis une image à l'histoire de l'homme. C'est pour ça que nous avons essayé que ces lithographies soient le plus modeste possible, c'est-à-dire d'alléger les couleurs, de faire quelque chose qui reflète l'esprit, qui reflète le rattachement du juif au moment où il a tellement besoin de son créateur, au moment où il se tourne vers la terre d'Israël. C'est à ce moment-là que lorsque peut-être il verra une image, deuxième image, alors il aura dans sa conscience qu'il n'est pas un homme statique et seul, qu'il n'est pas quelqu'un qui traverse le temps, qu'il n'est pas quelqu'un sur qui le temps passe, mais qui est quelqu'un qui marche, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui va vers un avenir, quelqu'un qui change. Et alors à ce moment-là, il aura la sensation d'appartenir non seulement au Klal, non seulement au Ham Israël, mais même à la terre d'Eretz Israël. Parce que, quelquefois, notre endroit, ça n'est pas tout du matériel, ça n'est pas le goudron, ça n'est pas la terre elle-même. C'est ce que nous avons dans la tête comme étant notre terre. C'est pour ça que nous avons pensé, c'était une bonne idée, de donner au public cette image de ces peintures qui reflètent ce que chacun a dans la tête, l'image de son makom, de son endroit, au moment où il obéit à sa neshama, c'est-à-dire qu'il prend conscience de toute sa force, parce que c'est un moment où il a besoin de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Nous espérons que vous en ferez bon usage, nous en ferons bon usage, et que, loin de nous distraire, ces images-là, elles nous rappelleront qui nous sommes, d'où nous venons, comment nous devons agir, quelles sont nos références, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'au moment où on essaie de faire, nous les mitzvot, on essaye d'accomplir ce qui doit être accompli. Venishma, et pour ça il faut se renseigner, il faut étudier. C'est pour ça que l'étude sans naasé, sans application, ça n'a pas de valeur du tout. Le savoir, si ça n'est pas pour avancer, il est modifié. Il a quelque chose de pas juste, quelque chose de pas vrai. On lui enlève sa dimension. Nous avons toujours essayé. C'est la raison pour laquelle les autres années, nous invitions des associations et nous essayons de faire un effort pour pouvoir les aider. C'est pour ça que plusieurs années, nous avons aidé des gens qui œuvraient en Eretz Israël, des gens qui ont construit de grandes choses. Mais cette année, nous avons pensé que si c'était bien de penser aux autres, peut-être il fallait aussi penser à nous. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde parle du pouvoir d'achat. Mais une réalité qu'on doit savoir, c'est que, avec ce que gagne Le français, on va dire moyen, très moyen, plus moyen que moyen. On ne peut plus terminer un mois. Je ne parle pas des gens qui touchent un salaire et qui ne peuvent pas se loger. Parce que le fait de travailler, ça n'assure plus une existence qui soit décente. Et c'est vrai que chaque jour viennent chez nous des gens qui ont des problèmes. Les uns parce qu'ils n'ont plus de travail, les autres parce que leur travail ne leur apporte pas de quoi vivre. Et on essaye de les aider. Mais nous aussi, nous avons une grande difficulté. Parce que vous savez que le prix des scolarités est très élevé et que tout le monde ne peut pas les payer, qu'un enfant, ou une famille plutôt, qui aurait 3 enfants, normalement, elle serait obligée de payer 1 000 euros par mois pour les scolarités et la cantine. C'est très difficile quand vous gagnez 1 500 euros et que vous avez un diplôme et qu'on vous dit que de toute façon, l'échelon supérieur, ça va prendre des années. C'est très difficile lorsqu'il y en a un seul qui travaille. Et même si nous nous efforçons, grâce à tous les donateurs qui sont ici, grâce à tous ceux qui nous aident, de compléter la scolarité. Mais lorsqu'on n'arrive pas à compléter la scolarité, comment on va faire pour en plus donner à manger? Et là, je vois que nous avons utilisé une idée à la mode. Ou plutôt, nous l'avons mis en pratique. Alors, notre voisin l'a appliqué. Vous avez tous entendu que le maire socialiste de la ville de Drancy a décidé que les cantines scolaires soient gratuites et qu'à partir de ce moment-là, il a eu 1 000 000 d'enfants en plus. Et maintenant, ils font la grève parce qu'ils n'arrivent pas. Les employés ont trop de travail, ils n'arrivent pas à subvenir à tous ces besoins. Nous avions le choix. Puisque la plupart de ce que les parents payent ne suffit pas pour la scolarité, comment est-ce qu'on va leur donner à manger en plus? Donc celui qui va payer aura la cantine, et puis l'autre, il viendra rechercher ses enfants à l'école, il amènera à la maison, il mangera ce qu'il mangera. Et puis nous avons décidé que non. Nous avons décidé que s'il y avait une cantine, et c'est obligatoire pour ceux dont la maman travaille, et qui n'est pas de retour à midi, il y en aurait pour tout le monde. Et le fait qu'il y en ait pour tout le monde, ça fait que le déficit s'accentue d'année en année et que un jour, nous ne voulons pas l'espérer, mais ce sera de plus en plus difficile et nous n'y arriverons plus. C'est pour ça que nous avons décidé. Au lieu de ramasser les quelques euros que l'on demandait à chacun, une fois c'était pour l'ambulance, une fois, c'était pour Chaim Layeled, les enfants malades. Une fois, c'était pour Meir Panim, pour servir de repas. Une fois, c'était pour une clinique dentaire. Nous avons décidé de vous demander une chose très simple. Vous savez que le Tehilim, il a été fait par procédé lithographique. Et nous avons des lithographies. Ces lithographies, on va les offrir. On ne va pas faire du commerce avec, de même que le Tehilim, ce que nous avons imprimé, nous l'avons imprimé, et il ne sera jamais rien vendu. Ça n'est pas pour gagner de l'argent. Et bien que les propositions n'ont pas manqué, parce que nous avons eu beaucoup de chance, grâce, je ne voulais pas le citer, il m'a demandé de ne pas le citer, mais comme mon ami Serge Cachan l'a cité, je vous demande de l'applaudir, c'est Avi Cohen. C'est lui qui a suivi l'impression d'Israël, c'est lui qui a suivi la reliure, c'est lui qui a tout fait. Et grâce à lui, nous avons pu sortir quelque chose d'acceptable avec nos petits prix. Et grâce aussi à l'artiste qui nous a laissé ses lithographies et que l'on pourra vendre. Mais nous avons décidé de demander quelque chose de modeste ce soir. Il y a à peu près entre 120 et 140 enfants qui ne s'acquittent pas vraiment du prix de la scolarité, et sûrement pas du prix de la cantine. Parce que tout le monde sait qu'avant de donner à manger, il faut payer les professeurs. Si ça, on n'y arrive pas, alors comment on va faire pour la cantine? Alors, on va leur donner un petit coup de pouce ce soir. Un repas pour un enfant, pour un mois. Coûte 40 euros. On va nous distribuer des feuilles. Celui qui voudra bien s'associer et parrainer cet enfant pour un mois. Un mois, c'est 40 euros. Deux mois, c'est 80. Trois mois, c'est 120. Aura droit à ces lithographies que vous voyez au mur. Selon la nature du don, il aura droit à un bon pour une lithographie. Ce qui fait que, pour quelque chose de modeste, on peut emporter chez soi quelque chose de beau aussi, pour un prix qui n'a rien à voir avec le prix de la lithographie. Mais comme elle n'est pas à vendre, alors nous espérons que chacun aura à cœur de donner cette somme qui n'est pas énorme, 40 euros pour un enfant, 80 euros pour deux enfants ou pour deux mois, et que tous ensemble, on arrivera, au moins pour cette année, à résoudre ce problème. Et que nous puissions dire que si nos institutions, elles essayent de promulguer un enseignement de valeur, elles essayent aussi d'éduquer au Maasé, au fait de faire, pas seulement de rester dans son coin, mais aussi d'aider l'autre, de pouvoir faire pour l'autre. Et peut-être par ce mérite-là, nous aurons droit, comme il est écrit, Mayase Adam Vinatzel Michevle Mashiach, comment l'homme doit-il aborder la période du Mashiach, Yaasok Batorah Ubemaasim Tovim, qu'il s'occupe, qu'il s'adonne à l'étude de la Torah, Ubemaasim Tovim, et qu'il pratique de bonnes actions. Je vous remercie par avance pour les enfants. Chacun, on va leur distribuer des fiches. Et un bon sera distribué, vous pourrez prendre la lithographie à la fin de la soirée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite rien que de bonnes choses, tout ce que nous pouvons souhaiter. Bracha v'atzlacha, uva le tzion goel. Amen.